Bonjour à tous les auditeurs de RCF Radio Théo. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année pour de nouvelles émissions Poussière et Lumière. Pour cette première édition de 2013, je vous propose de vous mettre en route sur la Via Francigena, ou Route des Francs, en compagnie de mes deux invités, Marie Bétoire-Lehi, qui travaillait à la Commission diocésaine d'art sacré d'Arras, et son époux Rémi Bétoire, professeur d'histoire. Ils ont souhaité parcourir l'intégralité de la Via Francigena cet été pour leur voyage de noces. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Alors vous vous êtes donc mariés l'année dernière au mois de mai et d'un seul cœur vous avez décidé pour votre voyage de noces de vous lancer sur le pèlerinage de la Via Francigena. D'où vous est venue cette idée ?
Alors cette idée nous est venue pendant notre dernier pèlerinage puisqu'on a fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle en 2009. Et en 2009, à la fin de notre voyage, notre périple sur le chemin de Saint-Jacques, nous nous sommes fiancés dans la cathédrale de Santiago. Et donc sur ce chemin, sur le chemin de Saint-Jacques, que vous connaissez certainement, on nous a parlé d'un chemin dans le nord qui reliait une ville anglaise à Rome. On n'en savait pas plus que ça. Et là, bien sûr, sur le chemin, on s'est dit, ce sera notre prochain pèlerinage.
Et pourquoi ? Peut-être parce que vous habitiez déjà dans le nord à l'époque ou par pure envie de marcher, si j'ai envie de dire ?
On habitait déjà dans le nord et on s'est dit « Ah, c'est incroyable, il y a un chemin de pèlerinage qui passe dans le nord, on n'en a jamais entendu parler. Il faut absolument qu'on découvre ce qui se passe sur ce chemin et par où elle passe. Peut-être qu'elle passe par Montreuil-sur-Mer, qui est la ville d'origine de Rémi. » Donc on s'est dit « Il faut absolument qu'on creuse, on va dire, l'information. »
Alors effectivement, vous venez de nous dire que ce chemin est effectivement peu connu, en tout cas il l'est beaucoup moins que les chemins de Saint-Jacques de Compostelle que finalement tout le monde connaît. Rémi, est-ce que vous pouvez peut-être me dire un petit peu plus au sujet de l'histoire de ce pèlerinage ?
Oui, alors la Via Francigena en fait s'appelle la voie des Français. C'est une voie qui de pèlerinage par le fait que comme sur le même modèle que Saint-Jacques de Compostelle, un évêque a fait cet itinéraire pour aller chercher son pallium, c'est-à-dire pour aller chercher le vêtement qui représente la prise en fonction de sa charge d'évêque épiscopal. Et donc cet évêque, s'appelant Sigéric, a fait ce voyage de Canterbury, de son diocèse de départ jusque Rome, un peu sur le modèle de Godescalque qui était parti, lui, du Puy-en-Velay jusque Saint-Jacques de Compostelle.
Et est-ce que vous pouvez simplement nous résumer rapidement quel est l'itinéraire qu'a emprunté Sigéric et qu'aujourd'hui les pèlerins empruntent à leur tour ?
Oui, alors cette voie se calque sur un itinéraire qui est aussi historique. C'est une voie de commerce qui emprunte de nombreuses voies romaines. Et en suivant les voies romaines qui ont été conquérir la Bretagne, la Grande-Bretagne, vous avez donc un départ qui se fait de Canterbury, qui traverse le Nord-Pas-de-Calais, la Somme, et qui descend vers l'est de la France en passant par la Suisse et puis en terminant donc en Italie jusque Rome en empruntant donc comme je vous le disais les voies commerciales.
Donc finalement un parcours qui fait passer à travers de nombreuses contrées. Vous-même vous êtes parti directement d'Angleterre ou vous êtes parti finalement de Montreuil ou du Nord-Pas-de-Calais où vous habitiez ?
Nous avons choisi de partir de Canterbury pour pouvoir réaliser l'ensemble du chemin. Nous aurions pu partir à partir de Montreuil ou même d'Arras, comme le faisaient les pèlerins, parce que les pèlerins au Moyen-Âge ou même ceux au XIXe ne partent pas d'un point antérieur, mais bien sûr ils avancent. Mais nous avons choisi de partir de Canterbury pour découvrir l'ensemble de la voie. Et d'ailleurs, nous avons bien fait parce que la partie anglaise est particulièrement jolie.
Est-ce qu'elle est longue ? Comment s'est déroulé le début de votre parcours ?
Alors nous sommes partis d'un contact de Caroline Pinchbeck qui est pasteur au service de l'église anglicane. Nous sommes partis donc de Canterbury et nous avons été hébergés chez elle. Et puis nous sommes partis donc de la cathédrale autour d'une pierre actuelle qui est présente à l'entrée de la cathédrale et qui fait office de point de départ de ce pèlerinage, inscrit donc avec le logo que l'on va suivre durant notre voyage, qui est le logo des pèlerins et de la Via Francigena. Nous sommes partis donc de Canterbury et là, nous avions la possibilité de parcourir le trajet en deux étapes, mais nous avons, au fil du chemin et des kilomètres, nous avons décidé d'aller directement jusque Douvres en suivant un itinéraire existant qui s'appelait le North Donway, qui est un GR dans le Kent, pour lequel la Via Francigena s'est calquée. Et donc nous avons pu relier cette première étape, Canterbury jusque Douvres en une fois.
À partir de Douvres, j'imagine donc que vous avez pris le ferry pour retourner sur le territoire français. De là, vous êtes donc effectivement parti direction l'Est. Comment s'est passé ce passage finalement très long en France et quelles ont été les étapes autant spirituelles que matérielles qui vous ont un petit peu permis de traverser cette première étape ?
Je crois qu'il faut déjà qu'on précise que nous étions partis à pied, dans l'objectif de faire le pèlerinage à pied jusque Besançon, parce qu'on avait un mois et demi pendant les grandes vacances. Donc on avait prévu Besançon ou la Suisse. Et au cours de notre marche dans le Pas-de-Calais, nous est venue l'idée de continuer finalement à vélo et de faire la plupart du chemin, donc le reste du chemin pour aller jusque Rome en vélo.
Est-ce que c'est pour une raison bien précise ou c'était uniquement pour le but d'aller jusqu'à Rome et finalement de faire le pèlerinage en une fois ?
Non, c'était pas du tout pour le but d'aller jusqu'à Rome. C'était pour nous faciliter un petit peu la vie par rapport à notre itinéraire, parce qu'on s'est rendu compte que sur la partie française, il était assez dur de suivre un itinéraire à pied et que les chemins avec les haltes n'étaient finalement que très peu organisés. Donc on s'est plutôt décidé à prendre le vélo pour des questions d'organisation, parce qu'il est forcément plus simple en vélo de rejoindre un camping ou de rejoindre une étape qu'à pied, puisque c'est beaucoup plus physiquement, c'est beaucoup plus dur de faire 4 km à la fin que faire finalement 20 km en vélo. Enfin, nous, c'est ce qu'on a pensé et ce qui, pour nous, est finalement, s'est avéré vrai.
Alors, votre première étape se passe donc dans le diocèse d'Arras, principalement, donc où vous aviez travaillé, où vous avez habité. Est-ce que justement cette première étape qui vous a permis donc de changer de moyen de transport vous a également été plus facile par un certain nombre de relais qui vous ont permis d'avoir finalement des logements ? Parce que je ne sais pas si tout le monde a été pèlerin, mais ce n'est pas forcément toujours évident d'avoir un lieu où dormir, des choses de ce type-là.
Oui, alors on était prévenu avant de s'engager sur cette voie que les points de relais et d'accueil et d'accueil chrétien, parce que nous recherchions essentiellement les accueils chrétiens, allaient être beaucoup plus délicats que sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en partant de ce constat, nous avons suivi un itinéraire à la fois calqué sur le voyage de Sigéric, mais aussi sur les Carthigènes, en allant au plus direct, en utilisant un réflexe qui a dû être aussi celui des pèlerins du Moyen-Âge, par souci d'efficacité, parce que le but à cette époque, et qu'il est aussi pour nous, c'est d'arriver à la fin de notre pèlerinage et non pas de prendre forcément son temps sur cette voie. Il y a un besoin d'aller directement et à l'essentiel jusqu'à Rome, jusqu'à Saint-Jacques ou Jérusalem. Donc nous sommes arrêtés sur des accueils chrétiens, mais des accueils de connaissances principalement sur cette voie, à savoir en partant de Calais, nous sommes arrêtés à Ardres, dans un camping, mais surtout nous avons eu l'aide de plusieurs points comme à Wisk, dans la communauté monastique de Wisk, qui nous a permis de nous reposer une demi-journée. Et puis nous sommes arrêtés aussi à Étrécochy, chez une collègue de travail de Marie. Et puis enfin à Arras, malgré la possibilité de s'arrêter au diocèse, nous avons privilégié l'accueil d'un ami, Michel Théi, donc à Borin. Donc nous sommes appuyés sur nos connaissances pour rendre plus agréable une voie empruntant le Nord-Pas-de-Calais qui est pour la plupart bitumée et donc assez difficile à pied pour l'organisme.
Donc finalement, une première étape à travers le diocèse d'Arras, faite de connaissances, puisque vous connaissez beaucoup de personnes qui vous ont hébergé, faite également de changements de choix, notamment pour le moyen de transport, mais également peut-être de découverte. Est-ce que vous avez redécouvert ce diocèse que vous connaissiez finalement par le biais du pèlerinage?
Oui, on a beau. Pour ma part, j'ai redécouvert le diocèse, je l'ai vu d'un autre œil. Je l'ai vu parce que déjà on marchait. Donc la marche, tout ce qui est plus lent, permet de regarder, finalement, de regarder tout ce qui se passe tout autour. La voiture, ce qu'on emprunte le plus facilement, ne nous permet pas d'avoir cette vision. On a surtout redécouvert, je crois, une belle chapelle qui est la chapelle Saint-Louis, à côté de Tournehan. Et nous, on ne connaissait pas, et c'est vrai qu'on est tombé un petit peu par hasard sur ce magnifique édifice qui nous ouvre une vue superbe sur le Boulonnais. Après, on a redécouvert aussi le chemin à côté de Saint-Éloi pour amener qui nous amène jusqu'à Arras, qu'on a trouvé très très joli, qui est l'ancien chemin de la chaussée Brunehaut. Ça, c'est vrai que c'est deux lieux qui nous ont marqués et qu'on a beaucoup beaucoup appréciés.
Et qui vous ont permis d'entrer dans cette spiritualité du pèlerinage, même si effectivement il y a toujours un petit peu les soucis matériels qui surgissent derrière. On va s'arrêter là pour avoir une petite pause musicale. On va revenir à la suite de vos pérégrinations juste après ce morceau et pour découvrir finalement la fin du parcours et si vous avez peut-être des conseils, parce que finalement ce chemin de pèlerinage mérite d'être connu, mais il a peut-être une certaine dynamique qui peut lui être propre. Nous sommes de retour dans l'émission Poussière et Lumière sur RCF Radio Théo. Je suis toujours avec Marie Bétoire-Lehi et son époux Rémi Bétoire, qui cet été ont parcouru la Via Francigena de Canterbury à Rome à pied et à vélo. Avant la pause, nous nous étions arrêtés à leur parcours finalement aux confins du Pas-de-Calais. À partir de là, vous nous aviez dit, Marie, avant que vous aviez pris les vélos, est-ce qu'il y a eu un changement dans votre parcours et qu'est-ce qui vous a marqué sur la fin de la partie française?
Un changement, oui, parce que forcément on voit les paysages qui défilent un peu plus vite, même si on les voit quand même beaucoup mieux qu'en voiture. C'est quand même un pèlerinage. Ça reste un pèlerinage, même si c'est en vélo. Je pense qu'il y a beaucoup qui font des fois la distinction entre les pèlerins à pied, les pèlerins en vélo. Qu'est-ce qu'un vrai pèlerin? Je pense que si dans son cœur on est un pèlerin, que ce soit n'importe quel mode de transport, on reste un pèlerin. Néanmoins, on voit quand même les choses un peu plus vite, puis on pense un peu plus à ses mollets, aux côtes qui arrivent, etc. On les voit un peu plus, un peu différemment qu'à pied.
Est-ce que lors de cette étape, finalement, le matériel n'a pas pris le pas sur le spirituel, sur l'aspect spirituel du pèlerinage? Est-ce que vous vous êtes senti tout de suite dans cette dimension de pèlerin, ou est-ce qu'il a fallu un petit peu réadapter votre façon de penser et justement de voir le chemin?
Bah écoutez, c'est un peu le cas dans différents cas pour les pèlerinages, c'est-à-dire que le corps qui souffre, en fait, généralement, peut être une voie vers la spiritualité, mais peut être aussi un obstacle, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que ce soit à pied pour Saint-Jacques-de-Compostelle ou en vélo, là, à partir de la Somme sur la Via Francigena, eh bien, il faut que l'effort commence à être un petit peu plus, comment dire, acceptable pour pouvoir, pour que l'âme s'élève un peu plus haut. Donc, il a fallu en effet un certain temps, c'est-à-dire que l'esprit était focalisé sur sur le physique au départ, et puis petit à petit, eh bien, cette mécanique, le corps humain est bien fait comme l'âme, et donc, lorsque le corps trouve un équilibre dans l'effort, et eh bien là, on peut de manière un peu plus naturelle se porter vers le spirituel et vers une démarche de foi au quotidien. Et le fait de répéter aussi chaque action dans son quotidien, comme un petit peu les communautés monastiques, répéter, avoir un quotidien réglé, comme dans un pèlerinage, c'est-à-dire se lever, partir, eh bien, c'est aussi propice pour s'enrichir spirituellement.
Alors, vous passez donc plusieurs villes, plusieurs lieux, Langres, Châlons-en-Champagne, vous allez jusqu'à Besançon, je crois. Comment les gens ont-ils accueilli votre démarche tout du long? Est-ce que vous avez pu trouver des gens finalement accueillants? Comment ont-ils pris le fait que vous êtes jeune, vous êtes des pèlerins jeunes, c'est votre voyage de noces, c'est quelque chose peut-être de particulier? Comment est-ce qu'ils ont appréhendé cette dimension?
Ah, on a été bien accueillis. Souvent, on a été vraiment très très bien accueillis. C'était ça. Je crois que au-delà du temps de vélo, on avait le temps de l'accueil, le temps de rencontre avec les gens. Et que ce soit en France, en Suisse et en Italie, on a à chaque fois été quand même très bien accueillis parce que déjà notre aventure les intriguait. Je crois que deux jeunes qui partent comme ça en voyage de noces à Rome en vélo, c'est assez déroutant. Donc ils étaient très gentils et très accueillants avec nous. On se souvient surtout d'une fois avec Norbert et Jocelyne à côté de Châlons-en-Champagne où forcément en vélo on a les petits désagréments du vélo qui sont la crevaison et puis donc du coup on était un peu mal, bon faut vous avouer qu'au début on était pas très bien équipés, donc on est resté un peu en plan dans ce petit village de Tours-sur-Marne. Et là où on a rencontré Norbert et Jocelyne, qui nous ont accueillis les bras ouverts et qui nous ont aidés à réparer notre crevaison, puis ils nous ont accueillis pour la nuit. Donc c'était vraiment très chaleureux. Après en Suisse aussi, en Suisse on a eu un monsieur qui nous a hébergés, qui était propriétaire d'un gîte et qui nous a proposé de poser notre tente. Et donc c'était vraiment Pascal. Et c'était à chaque fois des rencontres superbes, enfin magnifiques. Et c'est en plus, c'est souvent ce qu'on garde quand même, ces rencontres. Que ce soit pendant le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle ou là, pendant la Via Francigena, c'est ce qui marque. C'est ce que nous reparlerons à nos petits-enfants, je pense, quand on en reparlera, c'est les rencontres.
Alors, ces rencontres témoignent effectivement de cet aspect aussi spirituel du pèlerinage. Après la France vient la Suisse, je crois qu'il est une étape assez courte mais assez intense, tant physiquement que spirituellement, puisqu'il me semble qu'au sommet du col du Grand Saint-Bernard, vous avez eu un de vos accueils chrétiens peut-être les plus marquants du parcours.
Oui, alors à la sortie de ce col du Grand Saint-Bernard, nous sommes arrivés chez des professionnels de l'accueil chrétien qui font ça depuis bien longtemps, qui sont les prémontrés de l'ordre, qui suivent la règle, pardon, de Saint-Augustin et qui ont cette fonction de passeur entre deux pays. Et donc nous avons pu découvrir l'histoire de cet accueil, l'histoire de cette hospitalité qui est ancrée sur le haut du sommet, avec encore à l'heure actuelle, par exemple, une crypte donc qui est ouverte aux pèlerins, et puis petite anecdote, même un cimetière de pèlerins qui est encore présent au sous-sol de cet accueil, qui montre que nous ne sommes pas les premiers ni les derniers à passer par cette voie. Et puis bon, bien sûr, l'aspect physique, car en vélo, un col à franchir est un exercice physique intense, mais le repos en est plus encore plus agréable. Et on a vraiment eu, à partir de la Suisse et de cet accueil-là, vraiment l'impression d'être redevenu encore des pèlerins. C'est-à-dire que le statut de pèlerin qu'on pouvait peut-être perdre en multipliant les kilomètres, dans cet aspect un peu de performance, eh bien on le retrouve dans des accueils chrétiens qui nous permettent de partager et de se retrouver en tant que pèlerin, comme Marie l'a dit précédemment.
Oui, parce que je crois que Marie, vous avez eu un petit peu de mal sur ce col et que finalement, vous avez doublement apprécié l'accueil au sommet du Grand Saint-Bernard. Après la Suisse, vous entrez en Italie, où là, je crois que la Via Francigena est beaucoup plus connue qu'elle ne l'est en France et où peut-être elle est plus aménagée et finalement le chemin à Rome est presque tout tracé par rapport à ce que vous aviez vécu précédemment. Comment avez-vous appréhendé toute cette partie italienne? Et en combien de temps, là, finalement, êtes-vous allé à Rome depuis la Suisse?
Alors, je crois qu'on a mis 10 jours pour relier le col du Grand Saint-Bernard à Rome. Alors, au début, il faut avouer, quand on est arrivé dans le Val d'Aoste, on était un peu perdu parce qu'on était déjà avant seulement dans une partie francophone. Donc là, on arrivait dans un pays. L'Italie, on ne parlait pas la langue. Donc déjà, on était un peu dérouté, que ce soit par le paysage, que ce soit par l'ambiance, par les routes italiennes, par les chauffeurs italiens d'ailleurs. Et donc déjà, il a fallu nous acclimater parce que finalement, le col du Grand Saint-Bernard, on l'avait un peu perçu, nous, dans notre imaginaire, comme étant la fin du voyage de la première étape, quand on pensait le faire à pied. Et là, on s'était dit, quand on arrivait au col du Grand Saint-Bernard, on s'est dit, dis donc, cette année, Rémi, on va finir le pèlerinage, on va aller jusque Rome. Et là, c'est devenu possible. Donc, on a avancé. Et on a avancé, on a commencé la première partie de l'Italie, la plaine du Pô, qui a été assez difficile physiquement, parce qu'il faisait très chaud et ce sont de grandes routes toutes droites à travers les champs et c'est pas forcément très agréable. C'est quand nous arrivons à peu près aux alentours de Pazienza que on commence à monter et arriver en Toscane. Alors là, la Toscane, bon, je pense que beaucoup des auditeurs ils sont peut-être passés ou ont la chance de partir en Toscane et là forcément là, toute l'Italie prend son sens, on va dire, parce que c'est des paysages magnifiques. San Gimignano, Sienne, Fornovo, là pour le coup, et des accueils aussi à chaque fois très, très beaux, puisque à chaque fois, donc, comme l'a dit Rémi, on recherchait les accueils chrétiens et on en a trouvé qui jalonnaient tout le parcours. Donc on a eu la chance d'en trouver à chaque fois, et je crois que les deux mêlés, ça fait que le début de l'Italie a été. Les 3-4 premiers jours ont été vraiment difficile, je crois que moi j'en avais un peu plein la pédale et après par contre c'est revenu grâce aux accueils chrétiens. J'en ai retrouvé, moi j'ai particulièrement, je sais pas Rémi, mais moi j'ai retrouvé un second souffle avec ces accueils qui m'ont permis de sentir pourquoi je faisais aussi le chemin.
Donc finalement, vous vous êtes un peu posé la question tout du long de votre foi, de votre spiritualité. Et finalement, c'était un pèlerinage pas si évident que ça, de ce que j'en comprends. Au bout de 10 jours, vous arrivez à Rome, heureux d'être arrivé. Comment avez-vous vécu très rapidement cette arrivée dans la capitale italienne et dans la capitale du monde chrétien?
Marie, comme à son habitude, lâche quelques larmes en arrivant au point ultime de notre pèlerinage, comme à Saint-Jacques, arrivé sur la place Saint-Pierre. Eh bien, le pèlerinage prend sens. Hein. C'est là qu'on voit un petit peu le chemin parcouru, et puis ça avait beaucoup de sens aussi parce qu'on était passé par chez nous, et donc on était plus qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, on était parti de chez nous, et donc on était passé par chez nous, et donc on était allé par nos propres moyens jusque Rome. Et donc là, bien sûr, l'émotion est intense. Et puis l'arrivée s'est faite par un accueil très chaleureux, l'accueil Saint-Jacques et Saint-Benoît-l'Abbre à Rome. Donc Saint-Benoît-l'Abbre qui a bien sûr une influence directe pour notre région, à savoir que le saint pèlerin Benoît Labre est parti d'Hammett, donc dans notre diocèse. Donc nous sommes arrivés là-bas et puis nous avons eu donc 4 jours en guise d'halte où on s'est retrouvé vraiment encore une fois là dans la communauté des pèlerins avec juste un exemple par exemple d'exercice qui était le lavement des pieds de chaque pèlerin qui arrivait après nous avant de se mettre à table. Donc des actes donc de foi qui permettent de se retrouver en tant que pèlerin. Et donc nous avons vraiment passé 4 jours hors du temps à Rome.
Voilà une belle conclusion pleine d'espoir et qui, j'espère, aura donné envie à tous les auditeurs de partir eux aussi en chemin. Donc je rappelle que Marie et Rémi, vous êtes partis en juillet dernier de Canterbury pour arriver à Rome, je crois, le 10 août. Vous souhaitez donc poursuivre vos pérégrinations, notamment à Jérusalem très prochainement. Et vous intervenez encore régulièrement pour témoigner de votre chemin. Donc vous serez invité prochainement dans plusieurs structures, dans plusieurs diocèses pour en témoigner. Vous publiez des petits articles sur des blogs et dans des journaux. Prochainement, on vous trouvera dans les Échos du pèlerinage. Donc j'espère que ça vous a donné à tous envie de partir également sur les routes. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Poussière et Lumière sur RCF Radio Théo.